Europe Midi, Thierry Dagiral.
Il est midi et demi, soyez les bienvenus, c'est Europe Midi, 30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce mercredi 29 décembre. Il est au cœur de nombreux sujets d'actualité. Le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, invité dès le début du journal, il est en charge du tourisme et des PME. On va bien sûr parler des annulations de voyages, de la réouverture des discothèques repoussées de 3 semaines et du télétravail. Il répond dans un instant à vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1. Des jauges pour les concerts, mais rien pour les meetings politiques. 2 salles, 2 ambiances et un coup de gueule, celui du maire de Poissy, près de Paris. Carl Olive sera avec nous vers 1h-20. Les températures, elles sont complètement folles. 16 degrés actuellement à Paris, 22 à Biarritz, jusqu'à 24 dans le Béarn. Le temps est déréglé et les agriculteurs s'inquiètent. On va en parler avec un climatologue vers 1h-10. Et justement, la tendance météo de votre mercredi, Marlène Duré.
Bien Thierry, ce sera la dernière journée agitée avant le retour d'un temps calme à partir de demain. Une alerte orange pluie-inondation est en cours dans 4 départements de l'Est. La Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère, avec une double vigilance pour les 2 départements savoyards et l'Isère, en raison d'un risque très élevé d'avalanche. Le tout toujours dans une grande douceur et on va d'ailleurs surveiller les records de température.
Le détail météo, ce sera juste avant 13h. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonjour.
Ministre délégué en charge du tourisme des Français et l'étranger. Depuis un mois, en charge des PME également. Depuis ce matin, on a demandé à nos auditeurs de vous poser des questions. Et il y en a beaucoup après les annonces gouvernementales de lundi soir. On va commencer, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, avec le tourisme et des réservations en Berne, notamment pour les prochaines vacances de février. Écoutez Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage.
Le niveau des réservations pour les vacances de février et mars, on est à 1/4 du niveau de réservation de la même date de 2019. Donc il y a 3/4 de chute. C'est-à-dire que les Français n'anticipent pas du tout leurs vacances. Ouais. Et puis ils sont pris par le climat anxiogène qui n'encourage pas à prendre des décisions de voyage à long terme.
Jean-Baptiste Lemoyne, comment venir en aide à ce secteur qui subit de plein fouet l'attentisme et l'incertitude des réservations ?
Alors, je vais venir sur le sujet des aides. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le comportement aussi des Français évolue avec la crise. C'est-à-dire que désormais, on le voit, comme le virus est un peu l'inattendu permanent, souvent on fait ses réservations au dernier moment. Et la preuve de tout cela, c'est qu'on a fait un très bel été indien. Les vacances de décembre, celles qui se déroulent en ce moment, je peux vous dire que les taux d'occupation sont très intéressants. Et je vous donne quelques chiffres. Mmh. Les gîtes de France font 7 points de plus de réservations qu'en 2019, avant la crise, sur ce mois de décembre. Les logis de France également sont à plus 20% de séjours sur le mois de décembre. Donc on voit bien qu'il y a eu un rebond du tourisme français cet été, cet automne, cet hiver encore. Et les stations de montagne sont également bien remplies avec 9 stations sur 10 qui sont satisfaites. Néanmoins, pour le mois de février, effectivement, c'est le cas de le dire, les gens, tout le monde est un peu dans le brouillard. À la fois les Français, parce qu'on ne sait pas comment cette vague Omicron va se comporter, et c'est pour ça qu'on demande à chacune et à chacun d'ailleurs qu'on puisse ensemble collectivement faire face. Naturellement, s'il y a des entraves, pour ce secteur, on continuera d'être à leur côté.
Alors justement,
on l'a fait depuis 18 mois et on va continuer.
Vous avez prolongé pour le mois de décembre le dispositif des coûts fixes, l'exonération des charges sociales. Est-ce qu'elles vont se poursuivre en janvier, février ?
Alors, on est justement dans un travail avec tous les secteurs impactés pour voir quelles sont les conséquences concrètes. Je vous prends un cas très pratique. Mmh. Par exemple, certaines stations de montagne ont été impactées par l'absence des clientèles britanniques. Bon, là, on travaille avec tous les acteurs de la montagne pour remonter les chiffres et pouvoir faire aussi du sur-mesure et accompagner. Et donc, tout ça, c'est un travail dans lequel je suis engagé déjà depuis le 18 décembre, qu'on va poursuivre d'ailleurs la semaine prochaine avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Et pour qu'on puisse construire ensemble vraiment des solutions. Encore une fois, on ne va pas les lâcher alors que depuis le début, on a été à leur côté. Ce sont des pépites tricolores et donc on se doit d'être aux côtés du tourisme français.
Justement, vous parlez des stations de sport d'hiver. Bon début de saison, vous l'avez dit, mais il y a des interrogations sur la suite. Le prix de l'énergie impacte les remontées mécaniques et donc le prix des forfaits. À terme, c'est l'activité touristique qui peut être touchée.
Alors effectivement, ils nous ont fait part de cette préoccupation sur l'augmentation du prix de l'électricité. C'est un sujet dont on va s'emparer avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher. Ce que je veux dire, c'est que la montagne, elle a d'énormes atouts parce que, en fait, désormais, les Français considèrent la destination de montagne non seulement l'hiver, mais aussi aux autres saisons. La montagne a été un tube de l'été 2021 et de l'été 2020. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a aussi tout un mouvement vers la montagne quatre saisons. Et donc moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la résilience, dans la résistance de la montagne française, parce qu'elle va pouvoir, je l'espère, de plus en plus vivre tout au long de l'année. Et ça, c'est une nouveauté.
Question Twitter de nos auditeurs. Est-ce que les restrictions de voyage envers des pays comme l'Afrique du Sud seront revues dans les prochains jours?
Alors, on a effectivement une classification des pays dans le monde selon la circulation du virus et des variants. Et donc, très régulièrement, à chaque conseil de défense, on revoit, en fonction de l'évolution de la pandémie dans le monde, cette classification. Certains États qui avaient été classés en rouge écarlate en Afrique australe en ont été sortis. C'est le cas, par exemple, de l'île Maurice, il y a quelques semaines. Et on va continuer ce travail au fur et à mesure. Et donc, et aujourd'hui, il est trop tôt pour se prononcer, mais effectivement, selon l'évolution de la pandémie, on pourrait être amené à lever certaines restrictions sur certains États de cette zone s'il s'avérait que la pandémie va décroissant.
Jean-Baptiste Lemoine, autre secteur très touché avec les récentes annonces, celui de la restauration. Écoutez, Frédéric Jean-Jean, il est gérant d'une brasserie sur le Vieux-Port à Marseille. Il est au micro de Stéphane Burgat.
Mais le mal est déjà fait. Sur le 31, ce qui s'est passé, c'est que les gens nous ont appelés en réduisant les jauges parce que, avec les annonces du gouvernement, ils ont préféré éviter de se retrouver à plusieurs en famille. Et là où au début de mois, j'avais des commandes de plateau pour 10-12 personnes, c'est tombé à 4 personnes. Donc ça fait une baisse de commandes de 30%.
Voilà. Est-ce qu'un dispositif rétroactif pour prendre en compte ces annulations de décembre va être mise en place?
Alors, sur le 31 décembre, je faisais le point ce matin d'ailleurs avec le président de l'UMIH, Roland Aigui, qui est un biarro, et il me signalait que...
Qui gère l'hôtellerie et la restauration. Hein.
Exactement. Il faisait le point sur place un petit peu sur les annulations, les réservations, et il me signalait en fait qu'il y a un double mouvement. À la fois, certaines personnes ont annulé, mais en même temps, d'autres réservent. Donc, moi, je pense qu'on peut, il faut le dire, les Français peuvent justement aller au restaurant, profiter de cette soirée dès lors qu'on prend toutes les précautions d'usage, effectivement, qu'on ne fait pas des tablés à vin, vous voyez ce que je veux dire, qu'on respecte les gestes barrières, on se fait tester avant. C'est une recommandation, eh bien, vous pouvez passer une belle soirée. Et donc, je crois que nos restaurateurs peuvent encore faire un beau 31 décembre. Il y a beaucoup de pays pour lesquels il y a des couvre-feux. C'est pas le cas en France. Et donc, c'est un appel, voilà, que je le dis. Dès lors qu'on fait attention, eh bien, on peut profiter de nos beaux produits de la gastronomie. Et puis, naturellement, on est en contact permanent avec les organisations représentatives de l'hôtellerie-restauration pour évaluer les impacts. J'étais avec eux hier en réunion. Là aussi, on continue la semaine prochaine. Donc, ils le savent, on ne les a jamais lâchés et on ne les lâchera pas.
Allez, on continue. Autre dossier. Les boîtes de nuit ne vont pas rouvrir le 6 janvier. Vous l'avez dit, réouverture repoussée de 3 semaines. Écoutez la réaction de Christian Jouny du Syndicat national des discothèques, interrogé par Élise Dangean.
Aucun cluster n'est apparu depuis la réouverture des discothèques. Et pourtant, ce sont les seuls lieux que le gouvernement a décidé de fermer. On touche là la période la plus élevée en termes de chiffre d'affaires. Cette perte qu'on estime entre 15 et 20% de chiffre d'affaires annuel n'est pour le moment l'objet d'aucune prise en compte. Il y a urgence à mettre en place toutes ces mesures d'accompagnement.
20% du chiffre d'affaires des boîtes de nuit, donc perdu à la poubelle, ils ont besoin d'aide immédiate, urgente. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, je leur dis que dès le 6 janvier, un formulaire sera en ligne pour pouvoir justement faire ces demandes d'aide, puisque nous avons annoncé un dispositif à la mi-décembre, puisque les discothèques étaient déjà fermées. Et puis là aussi, d'ailleurs, Monsieur Jouny, votre interlocuteur, j'étais en réunion avec lui hier, avec les autres syndicats représentant la profession, pour qu'on puisse là aussi voir quelles étaient les meilleures mesures pour les aider à faire face, parce que il le dit, c'est un mois important. Et puis par ailleurs, on le voit, dans quelques mois, certains devront rembourser des prêts garantis par l'État. Donc il n'est pas question là aussi de les laisser en rade. Ce sont des professionnels, je l'insiste, très sérieux. Depuis le début, ils ont été justement au rendez-vous pour vérifier l'identité des porteurs de passes sanitaires, pour mettre en place les protocoles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, regardez, on est sur des taux d'incidence et des nombres de cas qu'on n'a jamais connus, y compris pendant la première vague, pendant laquelle, je vous rappelle, on était confinés tous chez nous à ne pas pouvoir sortir. Et donc, on le voit aujourd'hui, on arrive à desserrer l'étau grâce à la vaccination. Néanmoins, il faut prendre toutes les précautions possibles et face à l'effort qu'on leur demande, naturellement, le président de la République souhaite qu'on soit au rendez-vous sur les aides et le soutien.
Allez, dernier dossier qu'on va évoquer avec vous, Jean-Baptiste Lemoine, le télétravail avec cette obligation désirée par votre collègue Elisabeth Borne, ministre du Travail. Écoutez ce qu'en dit Jean-Eudes Duménil, il est secrétaire général de la CPME.
Là, ce qui va se passer, c'est que l'inspecteur du travail, en quelque sorte, aura un carnet à souche et pourra mettre une amende. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Jusqu'à présent, le gouvernement considérait les entreprises comme des partenaires pour faire face à cette épidémie. Donc, tout d'un coup, se mettre à les menacer d'une amende, ça n'a aucun sens. Qu'il faut les convaincre et non pas les menacer. Voilà.
Voilà. Et j'ajoute que les sanctions peuvent aller jusqu'à 2000 euros. Ça peut faire très mal à certaines PME.
Alors là-dessus. Très clairement, je crois qu'il faut faire aussi confiance au bon sens. On accélère le télétravail parce que le virus accélère. Mais ce que je veux dire, c'est que le Premier ministre, il a été clair. Là, pour tous les salariés pour lesquels c'est possible. Donc, on voit bien les postes qui sont télétravaillables parce que plutôt des postes liés à l'administration, à la gestion de l'entreprise et d'autres qui ne le sont pas. Lorsque vous êtes chauffeur, par définition, lorsque vous êtes donc dans un certain nombre d'autres activités. Donc, c'est ça qui doit prévaloir, le bon sens, mais l'engagement. Et on sait qu'on peut compter l'engagement sur l'engagement des entrepreneurs parce qu'effectivement, depuis le début de la crise, ils ont su répondre présent. Vous l'avez vu à tous les moments. Et donc, moi, je crois beaucoup dans la confiance mutuelle. Néanmoins, il faut toujours prévoir un dispositif de sanctions au cas où. Mais la confiance fait que j'espère que ce dispositif aura le moins à être utilisé possible. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien, entrepreneurs comme employés, eh bien, la nécessité de mettre plus de télétravail pour éviter trop d'interactions sociales et donc briser toutes les chaînes de contamination qui pourraient exister.
Jean-Baptiste Lemoine, ministre délégué au tourisme et désormais au PME sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci à vous.
Merci à vous.
Restez avec nous sur Europe 1 à suivre le futur pass vaccinal à l'Assemblée dès cet après-midi. L'appel d'un maire pour que les meetings politiques soient contraints aux mêmes jauges que les concerts. Et le temps, mais que se passe-t-il? Pourquoi ces températures sont si hautes? Bon appétit, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Thierry Dagiral vous informe sur Europe 1.
Europe Midi,
Thierry Dagiral.
Une heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. 14h30, cet après-midi à l'Assemblée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera auditionné avant l'examen en commission du projet de loi pour faire passer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et vous le savez, ce projet prévoit de vérifier l'identité du porteur du pass en cas de soupçon de fraude. Ce serait, par exemple, au restaurateur de contrôler. Gladys Laffitte, qui peut aujourd'hui procéder à des contrôles?
Eh bien, la loi dit que seul un membre des forces de l'ordre peut contrôler l'identité de quelqu'un, un policier ou un gendarme qui est officier de police judiciaire. Mais il existe des exceptions, notamment quand un videur de discothèque vérifie la majorité d'une personne, tout comme les buralistes ou encore les contrôleurs de train quand il s'agit d'être sûr qu'une carte de réduction appartienne bien à son détenteur. Il s'agit en fait de vérifier, pas de contrôler à proprement parler. Il faut que cela soit justifié et c'est là que c'est encore un peu flou concernant les passes sanitaires. Jean Castex l'a dit, les restaurateurs pourront demander un justificatif en cas de doute avéré, mais encore faut-il juridiquement le définir. Ce sera l'objet des discussions au Parlement. En tout cas, le gouvernement veut aussi durcir les sanctions en cas d'emprunt du pass de quelqu'un d'autre, jusqu'à 1 000 euros d'amende contre 135 aujourd'hui.
Explication de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. On va parler maintenant des meetings politiques et de cette polémique qui monte des jauges pour les concerts, mais pas de jauges pour les meetings politiques au nom de la démocratie. Bonjour Victor Chabert.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
C'est véritablement deux salles, deux ambiances.
Oui, il y a ceux qui ont décidé de ne rien changer et qui vont continuer les grands rassemblements. C'est le cas d'Éric Zemmour ou du Rassemblement National, comme le précisait ce matin sur notre antenne le député Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen.
La question ne se pose pas. La Constitution permet normalement, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est vrai qu'avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout, aux meetings et réunions politiques, de pouvoir être tenus sans limitation.
D'autres n'ont pas encore tranché, notamment Valérie Pécresse. Deux lignes s'affrontent dans l'état-major LR sur le maintien ou non des meetings. La candidate n'a toujours pas fait de grand rassemblement. Elle avait même annulé celui prévu après sa désignation à cause de l'épidémie. Chez LREM, on décide d'appliquer les jauges à tous les événements. Du côté d'Anne Hidalgo, ce sera meeting avec passe sanitaire. Pour Yannick Jadot, des petits rassemblements pour éviter les contaminations. Il y a une autre solution pour les candidats, faire leur meeting en extérieur. Mais c'est difficile à sonoriser, donc plus cher. Et entre janvier et avril, il y a le risque de pluie. Personne n'a retenu cette idée pour l'instant.
Merci Victor. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Bonjour Carl Olive.
Bonjour Thierry Dagiral.
Maire d'Hiverdroite de Poissy dans les Yvelines. Dans un tweet, vous dites que les Français ne comprendraient pas cette différence entre les concerts et les meetings. Vous en appelez au bon sens de l'exécutif.
Vous savez, je pense que dans ce pays, l'ouverture d'esprit peut être aussi autorisée. Hein. Je pense que cette ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Évidemment que les Français ne comprendraient pas. Mais imaginez lundi soir, lors des annonces du Premier ministre Jean Castex. Que n'aurions-nous pas entendu dire s'il avait annoncé que les meetings politiques étaient limités à 2000 personnes en intérieur? Les oppositions ont crié au scandale, un déni de démocratie. Bon, en l'occurrence, non seulement ils ne pouvaient pas le dire, mais juridiquement, ce n'était pas possible. Puisque ça a été rappelé par votre journaliste, à juste titre, la compétence est constitutionnelle. Donc, j'en appelle évidemment à la responsabilité des chefs de parti, quels qu'ils soient, pour ajuster effectivement ces jauges au même titre qu'il est souhaité en matière de théâtre ou de concert. Et je pense qu'il ne faut surtout pas opposer, encore une fois, le monde culturel au monde politique. C'est certainement pas le moment où on constate ces fractures de société au quotidien.
Mais ça va être difficile de mener campagne dans ces conditions avec cet inconnu, la pandémie.
Oui, enfin, vous savez, Thierry Dagiral, c'est compliqué depuis un an et demi, et pas simplement pour mener campagne, tout simplement pour gérer au quotidien, je dirais, le savoir-vivre de nos administrés. Je pense que aujourd'hui, c'est à nous mettre au niveau, je dirais, de la société et pas l'inverse. On doit travailler à la lumière du jour. Aujourd'hui, la situation et la circulation du virus est telle qu'il faut prendre des décisions en responsabilité. Et demain, eh bien, les Français jugeront que, je l'ai entendu, le Rassemblement national, pour lui, il n'y a aucun état d'âme à être 5 000, 10 000, 15 000. Les Français jugeront. On ne peut pas avoir, je dirais, deux poids, deux mesures. C'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, la balle, je dirais, est dans le camp de tous les partis politiques. Charge à eux d'être en phase avec la réalité et d'être en phase avec leur acte.
L'appel de Carl Olive, le maire de Poissy, sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, suite et fin d'Europe Midi, on va parler du temps et des températures complètement folles, climat déréglé et coup dur, bien sûr, pour nos agriculteurs. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
1h10, la dernière partie de votre édition de la mi-journée. On va s'intéresser au temps, à ces températures complètement dingues pour une fin décembre. En gros, 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et c'est le cas aussi en montagne. Douceur égale pluie depuis plusieurs jours, même à haute altitude. C'est ce que vous avez constaté, Jean-Luc Bougeon, en Haute-Savoie, à Praz-sur-Arly, près de Megève.
Oui, effectivement, il pleut depuis le début de la semaine ici à Praz-sur-Arly et sur toutes les Alpes de manière très soutenue. Et dans le même temps, eh bien, les températures sont positives. Il fait 4 degrés en ce moment sur le front de neige de Praz-sur-Arly à environ 1000 mètres d'altitude, une situation assez incroyable pour un 29 décembre et donc vous l'imaginez, des conditions pour skier qui sont très moyennes.
Là il pleut, là, c'est clair que c'est pas génial.
C'est même une grosse galère, on y a été ce matin puis on est rentré parce que c'est difficilement praticable. Il n'y a rien de plaisant à skier sous la pluie.
Nos enfants skient quand même, mais nous on n'a pas le courage. D'accord.
Alors cette pluie, tout le monde en a marre parce qu'elle dégrade beaucoup le manteau neigeux. Dans les portions les plus basses, c'est de la soupe, hein, comme on dit. Mais Patrice Blangonnet, le directeur de l'office du tourisme de Praz-sur-Arly, veut rester positif, d'autant que du mieux se profile à partir de demain.
On a eu 1,50 m de neige début décembre. Et même là, avec la pluie, ça tasse un petit peu la neige, mais elle ne part pas encore. Et on a 3 jours de beau temps autour du 31, du 1er, donc c'est une bonne nouvelle pour aussi profiter sur le week-end, parce que c'est un week-end. Le 31, le 1er, cette année, le calendrier est plutôt favorable. Donc voilà, venez profiter de la montagne.
Voilà, profiter avec le beau temps pour finir les vacances. Attention quand même au risque d'avalanche. Pluie et température douce fragilisent le manteau neigeux. La Savoie et la Haute-Savoie ont été placées en vigilance orange avalanche par Météo France.
Merci Jean-Luc. Jean-Luc Bougeon, correspondant Europe 1 en Rhône-Alpes. Bonjour Cédric Ringenbach.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, président fondateur de la Fresque du Climat et ex-directeur du Shift Project. Jusqu'à 24 degrés dans le Béarn cet après-midi, fin décembre. On est clairement dans un dérèglement du climat.
Oui, exactement. Ce qu'on constate depuis le début du XXe siècle, c'est que la température globale, elle augmente, mais ça a des conséquences aussi sur les extrêmes. C'est-à-dire que les moments plus chauds vont être beaucoup plus chauds. Alors, il y a des extrêmes vers les plus froids, mais comme ils sont compensés aussi par le fait que globalement, ça augmente, il y en a moins. Mais donc, voilà, c'est pas juste une augmentation globale de la température, c'est un vrai dérèglement du climat sur les températures, sur les précipitations.
En avril, on se souvient des gelées qui ont ravagé des récoltes de fruits et légumes. Là, c'est la grande douceur fin décembre. Ce sont finalement les cultures et nos agriculteurs qui trinquent. Hein.
Oui, vous relevez les gels au printemps, ce ne serait pas un problème s'il n'y avait pas eu une période chaude juste avant. Mmh. Et c'est là qu'on parle vraiment de dérèglement. Si vous avez des douceurs au début du printemps, fin d'hiver, et donc si vous allez avoir des bourgeons qui sortent prématurément par rapport à ce qui se pratiquait avant, mmh. Et ben, en fait, là, vous avez une mise en danger très grave de toutes les cultures.
Bien sûr.
C'est une toute petite cause pour des très gros effets, parce que le bourgeon, c'est très fragile.
Et comment expliquer ça ? Il y a un caractère exceptionnel ou alors il faudra s'habituer à cela ? Ça va être maintenant le cas chaque année finalement ?
Alors malheureusement, ça va être de plus en plus le cas. Alors pas forcément chaque année, mais ces événements vont être de plus en plus fréquents. Et donc clairement, il y a des enjeux maintenant d'adaptation. Il faut évidemment lutter contre le changement climatique et en parallèle, il faut s'adapter. Il faut adapter les semences qu'on utilise, il faut adapter les modes de culture. Il faut aussi parer au fait qu'on n'aura pas les récoltes, le niveau de récolte escompté tous les ans. Donc il faut anticiper ça.
Donc c'est
un gros travail d'adaptation de tout le secteur et de tout l'ensemble de l'économie autour de ça.
Exactement. Et ça coûte de l'argent, mais évidemment, s'adapter, vous dites, ça veut dire que pour nos agriculteurs, c'est un changement radical.
Oui, c'est un changement radical. Vous avez dit que ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, les assureurs se demandent s'ils sont capables d'assurer l'agriculture à l'avenir. Donc, si c'est pas les assureurs, il faudra que ce soit la solidarité nationale, parce qu'on ne peut pas compter sur les agriculteurs pour assumer seul le risque climatique, c'est pas possible. Il faut que ce soit pris en charge par la collectivité locale, par la collectivité dans son ensemble, pardon.
L'ingénieur Cédric Ringenbach est président de la Fresque du Climat sur Europe 1. Merci à vous, grand merci à vous, monsieur.
Merci.
Alors justement, la météo avec vous, Marlène Duré. Le temps est bien perturbé à l'est du pays avec une alerte en cours, hein.
Oui Thierry, une perturbation très active traverse le pays. Elle glisse en ce moment vers l'est. Cet après-midi, elle arrosera parfois copieusement les régions du Grand Est, la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes, d'où la vigilance orange dans 4 départements rhône-alpins. Les précipitations attendues sur des sols déjà saturés, combinées à de l'air extrêmement doux, favorisant la fonte de la neige, nécessite de placer en alerte pluie-inondation la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère, avec une double vigilance pour l'Isère et les deux départements savoyards qui doivent faire face, en plus, à un risque très élevé d'avalanche. Il faut dire que la limite pluie-neige va remonter à 2300 mètres cet après-midi et 3000 mètres cette nuit. Sur le reste du pays, ce sera plus calme, toujours assez gris avec quelques petites pluies résiduelles. Une frange sud se démarque, au sud de la Garonne notamment. On devrait profiter de belles éclaircies, puis autour de la Méditerranée, où là le ciel sera simplement voilé, donc très lumineux. Les températures continuent à monter. On attend entre 10 et 16 degrés sur la moitié nord, pas moins de 16 à 20 dans le sud, jusqu'à 22 à Perpignan et localement 23 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. Des records de douceur sont à prévoir.
Merci Marlène Duré, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain avec plaisir dans un instant. Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil pour La France Bouge. Bel après-midi à tous sur Europe 1 bien sûr.